아멘.
Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Soit sauvé par lui. Je crois que dans cet évangile de Saint Jean se trouve l'essentiel de notre vie, si vous voulez. Le Christ qui s'est fait homme, comme on témoigne tous dans le credo, qui a pris chair de la Vierge Marie, et qui s'est fait homme pour nous les hommes et pour notre salut. Et Dieu, il ne veut pas la perdition de ce monde, mais il veut le salut de tout le monde. Je répète, le salut de tout le monde. Dieu est venu sur terre. Il s'est fait homme, il nous a donné la force de devenir, de pouvoir accéder à la déification. Je répète ça et je veux répéter toujours cet aspect très important. Dieu veut que nous les hommes accédions vers la déification. Nous tous, entièrement, notre corps et notre âme doivent accéder à la déification. C'est le but suprême de l'homme. Il n'y a pas d'autres buts secondaires, si vous voulez. Tous les autres buts secondaires, il faut nous conduire vers ça, la déification de l'homme. Peut-être que c'est assez difficile pour nous de comprendre comment est-ce que c'est possible que nous, des créatures, on peut arriver à cet degré d'être comme Dieu. Bien sûr, notre nature humaine restera la nature humaine, mais par la grâce de Dieu, on pourra d'en plus en plus dépasser l'état de cette nature, humaine. On pourra accéder de plus en plus vers Dieu, enfin. Donc je voudrais parler aussi aujourd'hui sur cet aspect de notre transfiguration, de notre déification. Et je voudrais vous lire, je voudrais vous proposer un petit fragment qui appartient à Saint Grégoire Palamas, et qui parle un peu de ça. Sois attentif à toi-même, c'est-à-dire à toi-même tout entier, non pas à une partie de toi-même en négligeant le reste. Comment ? Par l'esprit. Évidemment, car par aucun autre organe, il n'est possible d'être attentif à la totalité de sa propre personnalité. Poste donc cette garde sur ton âme et sur ton corps, et elle te délivrera facilement des mauvaises passions du corps et de l'âme. N'attendez-vous pas l'apôtre qui dit « Nos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Et encore, nous sommes la maison de Dieu. »
Et Dieu dit, j'habiterai et je marcherai en eux et je serai leur Dieu. Et après, Saint Grégoire Palamas continue, c'est aux hérétiques, frères, parce qu'il parlait, c'est une lettre envoyée à un frère, c'est aux hérétiques, frères, de parler ainsi, aux hérétiques qui disent que le corps est une chose maligne, qu'il est une confection du malin. Donc, c'est très important ce point de vue. Parfois, on considère que le christianisme considère le corps comme un instrument de Satan. Et parfois, on tombe dans cette tentation de croire que notre salut, cela sera un salut exclusivement spirituel, où notre corps n'aura pas aucune participation. Mais ce n'est pas vrai. Le corps n'est pas mauvais en soi-même. C'est pourquoi, avec David, on dit tous, tous ceux qui s'attachent à Dieu, toute leur vie crie vers Dieu. Mon âme a eu soif de toi. Combien de fois ma chair t'a appelé? Voilà, c'est très corporel. Ma chair qui appelle Dieu. Mon cœur et ma chair se sont réjouis à cause de Dieu vivant. Ou plutôt, le prophète Isaïe qui dit, mon ventre résonnera comme une cithare et mes entrailles comme une muraille que tu as refait à neuf. Et aussi le prophète Isaïe qui dit, par la crainte que nous avions de toi, Seigneur, nous avons conçu dans nos entrailles l'esprit de ton salut. Donc c'est l'esprit qui conduit toujours le corps. Et cette garde de corps qui cet esprit, avec cette garde, tu ne perdras jamais le contrôle de toi-même. C'est ainsi que tu soumettras à l'esprit la chair révoltée. Il n'y aura plus jamais dans ton cœur de paroles trompeuses. Voilà donc le corps qui n'est pas mauvais d'un côté, et d'autre côté, le corps parmi lequel on peut subir des choses mauvaises. Parce que on connaît tous, le péché vient par la voie corporelle, si vous voulez. Quand on pense aux autres, des choses pas très bonnes. Quand on affirme notre individualité, on l'affirme d'une manière très corporelle. Il faut que je mange, il faut que j'ai un abri. Et on se focalise toujours sur ça, toujours sur notre besoin corporel. Et on change un peu l'importance de notre corps. Notre corps qui est destiné à devenir un corps transfiguré, à devenir un corps qui peut partager vraiment Dieu, au lieu de ça, on met le corps dans un hypostase, comme je vous ai dit, très individualiste, très corporel, si vous voulez. Notre corps, c'est pas mauvais. Il faut très bien retenir ça. Notre corps, c'est un don de Dieu. Notre corps, c'est un défi, si vous voulez, pour nous tous. Parce que si on utilise comme il faut nos corps, soyez sûr que notre corps pourra partager cette destination finale, celle de la déification. Le Christ, il est venu pour que tout le monde soit sauvé. Rien de ce qu'il a bâti, rien de ce qu'il a construit, même nos corps, n'est pas une chose qui est destinée à s'anéantir. Rien de ce monde. Rien, rien, rien. Et surtout, surtout nos corps. Pourquoi est-ce que j'insiste assez beaucoup sur cette chose? Parce que je sens que parfois, nous, les chrétiens, on a des tendances qui peuvent dériver. On a des tendances qui peuvent dire que, bon, c'est mon esprit qui prie toujours, j'ai ma foi dans mon cœur, mais on ne s'engage pas entièrement, on ne s'engage pas du tout avec toute notre personnalité. On n'est pas seulement des esprits, on est aussi des corps. Voilà tous les mouvements qu'on fait dans l'Église. On fait des, voilà, je fais maintenant, des prosternations. On fait des les jeûnes. Mais surtout, on communie corporellement avec le corps du Christ. Corporellement, le Christ, l'Eucharistie, ce n'est pas une chose spirituelle qui nous est donnée, je ne sais pas comment. Non, c'est très physique. C'est un petit morceau de pain où on croit que Dieu a eu la bienveillance, a eu la bienveillance de transformer ce pain d'une manière qu'on ne peut pas comprendre dans son corps. Et voilà que nous, les êtres humains, avec des corps, nous accédons à ça. On mange le Christ, on mange son corps avec notre corps. Et on croit tous dans la résurrection. Dans la résurrection de quoi? On croit dans la résurrection des corps, de notre corps. Bien sûr, si notre vie c'est en vie en Dieu, on aura des corps transfigurés, des corps, comment est-ce qu'on peut dire, des corps qui peuvent dépasser cette nature, un corps déchu dans lequel on se trouve. Peut-être c'est un peu difficile pour nous encore de comprendre toutes ces choses, la déification de l'homme, l'importance du corps dans cette démarche de la déification. Mais je vous dis, c'est ici l'essentiel de notre vie. C'est ici la réalité de notre vie. Parce que sinon, on n'a pas d'autre point d'appui. L'Église, ici en l'Église, on vient pour ça, pour accéder à la déification de notre corps et de notre esprit. Pensez-vous que c'est possible pour tous? Parce que quand on parle de tous les saints qu'on voit dans le calendrier, c'est une réalité, leur présence c'est une réalité. Leur démarche a été une démarche très concrète. Vers quoi? Vers ça, vers goûter Dieu. Et quand on goûte Dieu, c'est ça. Quand on accède à Dieu, c'est ça notre déification. On dépasse la nature déchue. On croit que notre nature, maintenant, c'est une nature qui n'est pas comme il faut. Notre nature corporelle, notre nature spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on subit encore les épées de péché. On subit, bien sûr, aussi corporellement ces épées de péché. Mais si on va lutter contre ça, si on va lutter contre le péché, on peut accéder à ça. Et Saint Grégoire Palamas donne témoignage de ça. Et ce n'est pas seulement Saint Grégoire Palamas qui dit comme ça que le corps humain, il est destiné aussi ensemble avec l'esprit pour la déification. Donc, c'est à vous d'envisager ça. C'est à vous de chercher comment est-ce qu'on peut trouver cette voie qui n'est pas une voie, ni une voie morale, parce que par exemple, quand on commence à avancer sur ce chemin de Dieu, ce n'est pas simplement un chemin moraliste, parce qu'on tombe parfois dans cette piège de croire que si on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on est sauvé. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que quand vous aimez quelqu'un, ce n'est pas une liste que vous avez dans la cuisine et que vous suivez. Il faut faire ça, il faut faire ça. Non. L'amour travaille d'une autre manière, qui dépasse, mais bien sûr, sans exclure les règles morales, mais qui dépasse ça. C'est toujours un autre chose, un dépassement de nous-mêmes vers autre chose. Parce que c'est ça que Dieu nous propose. autre chose que notre réalité dans laquelle, malheureusement, on a l'impression qu'on a trouvé la béatitude suprême. C'est pas notre réalité à laquelle Dieu nous appelle. C'est pas ça, c'est une autre réalité, peut-être la vraie réalité, la réalité de Dieu. Parce que si on continue à rester dans notre réalité, avec ses coordonnées, avec ses valeurs, et on n'accède pas à Dieu, on n'a pas la capacité de transfigurer cette réalité. On est impuissant de transfigurer cette réalité. Même par le moyen de, je sais pas, d'art, ou même pas le moyen de poésie, le moyen de technique, on n'a pas la possibilité. On reste toujours dans un cadre créé. C'est toujours le cadre créé qu'on nous propose à nous-mêmes. Bien sûr, on peut vivre mieux, on peut avoir des outils mieux et meilleurs, mais on reste dans le cadre créé. Et c'est pas ça notre destination. Notre destination, c'est de goûter le cadre incréé qui vient de Dieu et qu'on appelle dans la théologie orthodoxe la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, har, on dit dans la langue roumaine. C'est ça qu'il faut toujours chercher, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, toujours. On vient ici à l'église pour trouver la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est ça la grâce de Dieu. Vous savez que les Isihast, je crois que vous connaissez c'est quoi un Isihast. C'est les pères qui ont pratiqué beaucoup la prière du cœur dans la tranquillité, dans les monastères, et qui pratiquent maintenant aussi, et qui disent qu'ils accèdent à sentir vraiment cette grâce, à voir la lumière incréée de Dieu qui est cette grâce. Donc voilà que c'est possible. Les saints qui vivent aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, on ne peut pas connaître. Peut-être parmi vous, peut-être parmi les moines de je ne sais pas quel monastère. Les chrétiens qui vivent vraiment la vie en Christ et qui peuvent dépasser ce cadre créé pour accéder à l'incréé. Parce que, je reviens à l'Évangile, le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour sauver le monde tout entier. Tout entier. Je m'arrête ici avec cette homélie. Peut-être je répète un peu trop, pas compréhensible, un peu trop incompréhensible, mais c'est un défi que je vous jette. C'est un défi de commencer à chercher, de commencer à vous intéresser. C'est quoi cette foi orthodoxe dans laquelle on vit? C'est quoi toute cette tradition Isihast, toutes ces traditions de la lumière incréée, qu'il y a des centaines d'années que tous les saints des églises parlent de ça, et tous les théologiens parlent de ça, de la possibilité de goûter Dieu même dans cette vie, même corporellement. C'est quoi ça? C'est une chose qu'on ne croise pas jamais, ni dans les supermarchés, ni sur les stadions, ni dans un salle de cinéma, ni dans les pratiques ésotériques, je ne sais pas de quelle manière, qui nous laissent toujours dans le cadre créé. Non, on ne va jamais rencontrer ça. Là-bas, on va rencontrer ça dans la relation de Dieu. Quand on va demander la grâce de Dieu qui peut remplir nos vies d'une manière inexplicable, incroyable, et qui peut nous donner une autre perspective sur la réalité. J'insiste, sur la réalité, parce que parfois, moi-même, j'ai l'impression que la réalité qu'on vit chaque jour, ce n'est pas la vraie réalité. C'est une réalité peut-être imposée, peut-être transformée, mais ce n'est pas la vraie réalité. Ici, en Dieu, dans la vie en Dieu, vous allez trouver la vraie réalité, la vraie vie, si vous voulez. Que Dieu nous bénisse tous. Et je répète, je jette le défi. C'est à vous de commencer à chercher. C'est à vous de lire Encore un mot. Je suis étonné qu'ici en France, où on dit que c'est un pays laïque, anticlérical et comme ça, on a traduit en français tous les sanctuaires de l'Église, presque tout.
Par exemple, Saint-Grégoire Palamas, en Roumanie, on ne l'a pas encore traduit tout entier. Ici en France, c'est tout traduit en français, tout. De la première lettre qu'il a écrite jusqu'à la dernière. Donc, pour les Français, c'est à vous de lire, et pour les Roumains qui connaissent la langue française, c'est à vous aussi de lire aussi, ou en roumain s'il y a des traductions, ou en français. Mais insistez sur ça, parce qu'il faut avoir une fermeté dans notre foi. Il faut avoir une structure dans notre foi. On ne vient pas seulement dans l'Église pour prier Dieu, Dieu donne-moi de gagner aujourd'hui à l'auto. Non, non, ce n'est pas ça. Non, c'est d'écouter Dieu. C'est d'avoir cette chance d'être ensemble avec Dieu. Et je répète, c'est le témoignage de Saint-Père que vous avez la chance de les avoir dans la langue française presque tous traduits. Les sources chrétiennes, les éditions Mines, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver toutes. Et dans les bibliothèques, c'est pas très difficile de trouver. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous donne sa grâce. Amen.